Bonjour à tous et bienvenue dans ces murs. Que vous soyez de passage ou des habitués, sur place ou en streaming, vous êtes au bon endroit ce matin. Est-ce que vous connaissez Slido ? Oui. Il y a des gens qui ont dit non ? Bon, je vais vous expliquer. Pour des cultes toujours plus interactifs et enrichissants, nous utilisons depuis quelques temps l'application Slido pour poser nos questions à Philippe sur le message qu'il va nous apporter aujourd'hui. Peu après la prédication, Philippe prendra le temps pour y répondre à ces questions. Et pour ceux qui utiliseraient l'outil pour la première fois, il a pour vocation à nous permettre de du coup poser nos questions sur le contenu du message pour éclaircir certains points qui pourraient nous échapper, mais pas à refaire la prédication. Pour cela, sentez-vous libre de vous rapprocher de Philippe par la suite. Merci à tous. Pour démarrer ce culte, dont le thème est « Le pain quotidien, faire le tri entre l'essentiel et le superflu », je vous propose de commencer par la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le sera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quelle est ma priorité dans la vie? Où est-ce que je place ma confiance? Pas facile de se recentrer sur l'essentiel dans notre quotidien. Mais ce matin, nous sommes là pour ça, et je vous propose de vous lever si vous le pouvez, pour louer notre Dieu et chanter que Jésus-Christ est celui que nous voulons suivre, et le seul en qui nous pouvons placer aveuglément notre confiance. Il est notre lumière.
Infinie qui libère, son nom est gloire pour la terre, puissance infinie qui libère. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est
Le dernier chant nous invite à rechercher le cœur de Dieu et sa présence. Alors, je vous invite à le chanter avec consécration aussi. C'est ton cœur que je recherche. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
Dans tes bras,
dans tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
Je plie le genou.
Je plie le genou. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, oh, 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 oh.
Il va être temps pour les enfants de partir avec Chantal. Merci à vous d'être là. Je vais prier pour vous et pour le message que Philippe va nous remettre dans quelques instants. Seigneur, merci pour les enfants qui animent notre église ce matin. Quelle bénédiction de les avoir parmi nous. Je te remets ceux qui vont rester avec nous ce matin et ceux qui vont partir avec Chantal. Merci pour les moniteurs et tout particulièrement pour Chantal ce matin. Je te prie qu'ensemble ils aient un moment de qualité en ta présence pour apprendre à te connaître. Je te remets Philippe et notre assemblée pour que ta parole puisse résonner ce matin dans nos murs et dans nos cœurs. qu'il soit perméable au message que tu as inspiré à Philippe et que nous nous apprêtons à entendre. Amen.
À tout à l'heure.
Avant de laisser la place à Philippe, Dieu nous accorde sur cette terre une certaine richesse. Si vous le pouvez, nous vous invitons à participer financièrement à l'action locale de l'église de Mérin, mais à son action aussi plus lointaine, par le biais des missionnaires que nous soutenons. Vous pouvez le faire par Twint ou par paiement, mais aussi on a la possibilité, par les paniers ce matin, demander à Jacques et John de bien vouloir les faire passer, et je vais prier pour remettre cet argent. Mon Dieu, je te prie que chaque centime qui nous est confié soit investi pour ta gloire, qu'il soit investi pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos péchés sans autre contrepartie que de l'accueillir en tant que sauveur personnel, puisse être entendue dans ses murs, mais qu'elle en sorte également, qu'elle puisse être partagée à nos voisins, à nos amis, à nos familles, à nos collègues, à l'inconnu dans la rue, ou à l'autre bout du monde, que cet argent soit au service du ministère que tu nous as confié. Au nom de Jésus, amen.
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. J'aimerais remercier celles et ceux qui rendent ces cultes possibles, dimanche après dimanche, que ce soit à la technique, avec les enfants, à l'équipe musicale. Regardez aussi la magnifique déco que nous avons. Ça dit quelque chose de la générosité, de la diversité de l'œuvre du Seigneur. Et je trouve que c'est un privilège que nous avons de pouvoir être là aussi, voilà, dans des locaux bien adaptés et même nettoyés une fois par semaine. Merci à celles et ceux qui mettent la main à la pâte, c'est précieux. Nous reprenons pour ce matin et puis dimanche prochain aussi, et enfin dans quelques semaines au mois de mai, nous reprenons notre méditation du Notre Père. La prière étendard des chrétiens et des chrétiennes. La prière que Jésus a donnée à celles et ceux qui le suivent et qui l'aiment. Et dans l'évangile de Matthieu, cette prière, elle se trouve au cœur du discours de Jésus que l'on appelle le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Une des très rares prédications que l'on a du Christ, en tout cas la plus longue. Je vous invite à relire Matthieu 6, depuis le verset 7. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière que Jésus enseigne, c'est un modèle de simplicité. Les phrases sont courtes, le langage est simple, la louange est dépouillée, mais profonde. Les demandes sont claires. Un modèle de simplicité. La prière, elle n'est pas simplement l'objet d'une réflexion théologique. Et Dieu sait que j'aime la théologie. Mais je ne peux pas m'arrêter là, juste à de la théologie. Cette prière, elle implique une action. Elle est symptomatique d'un style de vie. Elle traduit par des mots adressés à Dieu notre désir de vivre pour lui. Une façon d'affirmer, comme dans le psaume 73 au verset 8, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait avec cette prière. « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces trois requêtes qui ouvrent la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ces trois requêtes impliquent beaucoup de choses en ce qui concerne nos priorités. Est-ce qu'on veut vraiment que son nom soit sanctifié, que Dieu soit reconnu comme saint? Est-ce que nous voulons vraiment que son règne vienne et que sa volonté soit faite? Si je prie ça, si je dis ça, c'est que je suis prêt à m'engager personnellement à poursuivre de tels objectifs. Je ne peux pas dire cette prière sans la penser vraiment. Sinon, ce serait se moquer de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Suis-je vraiment convaincu que mon bonheur passe par la sainteté, le règne et la volonté de Dieu dans ma vie? Et si j'en suis conscient, est-ce que je vis en conséquence? Je vous laisse quelques instants, juste avec ces deux questions. Et puis la deuxième partie du Notre Père vient définir nos propres besoins. Des besoins physiques, matériels, le pain quotidien. Des besoins profondément spirituels et relationnels, le pardon de nos offenses. Et des besoins moraux, la protection face à la tentation. Pour ce matin, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain quotidien. On dirait que Jésus a une pensée toute spéciale pour les Français. Le pain qui est l'aliment de base, qui apporte l'énergie nécessaire à la vie physique. Et c'est seulement le pain que Jésus mentionne ici. Pas tout ce qu'on lui ajoute. Il ne parle pas de beurre, de fromage, de confiture, de Nutella. Pour le dire autrement, et c'est ce qui me touche avec cette prière, c'est que l'élément essentiel ici, des besoins matériels que le Seigneur reconnaît comme valables chez nous, c'est la nourriture de base. Ce qu'il nous promet, c'est la nourriture de base. Et cette requête simple nous invite, je crois, à réfléchir à ce que l'on demande à Dieu pour satisfaire nos besoins, nos envies matérielles. Ici, Jésus nous conduit, je crois, à trier le vital du superflu. Ce qu'on a vraiment besoin de ce qu'on pourrait laisser de côté. Le vital du superflu. À ne pas avoir, par exemple, des désirs insensés qui pourraient nous plonger dans la ruine et la perdition. Paul dit ça à Timothée. Il dit aussi, et c'est plutôt l'apôtre Jacques, à ne pas demander pour satisfaire nos passions. Pas avoir des désirs insensés, pas chercher à satisfaire nos passions. Trier le vital du superflu. Et je crois que le Notre Père est ici une mise en garde contre ce piège qui nous guette tous et toutes. Chercher à posséder toujours plus, à avoir, à remplir nos armoires. Nos besoins matériels pourraient parfois faire l'objet d'une liste longue comme un jour sans pain. Mais Jésus ne retient qu'un élément quand il réfléchit avec nous à nos besoins matériels. Qu'un élément, ça fait réfléchir. Cette simple requête, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nous oriente, je crois, vers un tri entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Jésus nous invite à demander à Dieu le pain du jour. Ah, nous avons certainement la liberté d'exprimer à Dieu quantité d'autres demandes. Mais Jésus dit ici, quand il nous enseigne comment prier, que nos attentes matérielles doivent être empreintes de sobriété. Ça, c'est ce que Jésus dit. À la manière, peut-être, de cette parole de Paul. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Paul évoque ailleurs le contentement. En Philippiens 4, 11, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ça me parle, ça. Content là où j'en suis. Pas tout le temps dans l'expectative, pas tout le temps dans la projection, pas tout le temps dans le toujours plus. Là où j'en suis, ça va. Et je crois vraiment qu'une de nos tensions en tant que chrétiens, chrétiennes, aujourd'hui, réside dans notre rapport à tout ce qui est possible ici-bas. On est bien ici. On est bien en Suisse. On est bien installé dans notre univers, chez nous. On a tellement de sécurité matérielle. Et puis il y a tant de choses à rêver, à désirer, à réaliser. C'est le sens de la publicité. Créer des besoins qui n'existent pas forcément. Mais tiens, tant qu'à faire, tu pourrais essayer ce nouveau yaourt, cette nouvelle destination, ce nouveau microcrédit, ce nouveau déo qui fera tomber tout le monde, ce nouveau site qui te permettra d'entrer en relation avec des gens dont tu ignorais même qu'ils existaient. Des sites qui nous invitent même, alors très ouvertement, hein, à entretenir des relations adultères. Tu as ce qu'il faut, tu es ce qu'il faut, mais regarde, tu peux avoir plus. C'est tous les jours, c'est tout le temps. Hébreux 11, 9 à 10, dépeint notre vie terrestre sous l'image d'une tente, campeur, et le ciel comme notre cité véritable, le véritable endroit où investir en attendant étrangers et voyageurs. Et sans trop oser nous l'avouer ou le reconnaître, nous inversons l'image. Notre vie présente, c'est notre résidence en dur. On y met toutes nos billes. Et peut-être qu'un jour, si tout va bien, on ira faire du camping là-haut. On verra. On a inversé l'image. Alors attention, hein, les dons de la vie, ce sont des bénédictions à savourer à pleine main. Il faut savoir se réjouir. Il faut savoir jouir de tout ce que Dieu met à notre disposition. Bien vivre est important. Construire, investir, prospérer, ça peut être légitime. Mais dans quel horizon vivons-nous? Est-ce que tout chez nous est absorbé dans l'horizon terrestre? Ou est-ce que notre vie sur la terre, avec sa beauté et ses potentiels, est vécue dans un horizon plus large, un horizon qui implique le ciel. Il y a des facilités matérielles qui peuvent sérieusement compliquer la vie avec Dieu, en détournant notre attention de ce qui compte vraiment. Les biens en abondance peuvent nous éloigner de Dieu. Et l'Écriture est très clair sur ce sujet, parce que le risque est réel. En Deutéronome 8, verset 12, alors que Dieu parle de la terre promise, de l'abondance de la terre promise, il met en garde son peuple. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Ou Proverbe 30, 8 à 9. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de notre Dieu. Il faut parfois des revers de fortune pour conduire quelqu'un à réfléchir autrement. L'histoire du fils prodigue qui a tout dépensé est toujours d'actualité. Le pain quotidien. Se contenter du nécessaire et l'apprécier, laissant alors au Seigneur la liberté d'accorder bien plus que le nécessaire, tout le reste. Et si ce reste nous est offert, prions Dieu qu'il nous aide à bien le gérer. Ne pas s'attacher aux biens matériels, puisque ce monde passe et qu'il nous faudra de toute manière tout laisser, peut-être même avant la fin. Soyons donc sobres et soyons reconnaissants pour le pain. Même si nous nous flattons d'en manger peu pour préserver notre ligne ou pour ne pas trop aggraver nos courbes. Ce pain, tout le monde devrait l'avoir. C'est une prière universelle. Tout le monde devrait l'avoir, ce pain. Des chômeurs, des réfugiés, des précaires, des sans-abri, des migrants. Chiffre du jour vérifié cette semaine, près de 2,5 milliards d'êtres humains vivent au-dessous du minimum vital. Chaque jour, entre 2300 et 2500 êtres humains meurent de faim. Chaque jour. Dans notre abondance, pensons donc à celles et ceux qui souffrent de la faim. Et parmi eux, des frères et sœurs dans la foi. D'ailleurs, dans le « donne-nous notre pain de ce jour », ne sont-ils pas inclus ? La solidarité imprègne cette prière. Pour comprendre la nature chrétienne de cette solidarité, il suffirait de modifier peut-être le Notre Père. Et au lieu de dire « donne-nous », oserions-nous prier « donne-moi » et que les autres se débrouillent ? C'est impossible. On n'oserait pas faire ça, parce que ce serait faire écho à ces paroles qu'on trouve dans 1 Corinthiens 11-17, « se réunir en église, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mépriser l'église de Dieu et couvrir de confusion ceux qui n'ont rien. Donne-nous notre pain de ce jour. » Je crois que ce « donne-nous » doit nous faire penser partage, solidarité, générosité. Le désir d'aider les plus démunis doit nous habiter. Et on ne peut pas prier « donne-nous notre pain quotidien » sans envisager d'être soi-même le moyen d'exaucer cette prière. Jésus, à l'heure du jugement dernier, dira aux siens « j'ai eu faim, puis vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » Et cela, tout simplement en s'occupant de l'un de ces plus petits de la société, nous dit-il. Une société qui, on le sait, peut se montrer très dure envers les pauvres, les faibles, les démunis, les réfugiés, les migrants. Voilà donc Jésus qui parle du pain quotidien, indiquant par là une confiance de chaque jour. Ce quotidien, il est indicatif d'une fréquence minimum pour dire à Dieu notre dépendance. « Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Demain suffira à sa peine. » Et puis, avant de conclure, il y a là aussi de quoi reconnaître que le travail, le moyen de gagner ce pain quotidien, c'est aussi lui qui le donne, le travail. Et il me semble que dans la pensée du Seigneur, le pain que nous gagnons grâce à notre travail, il n'est pas gagné sans effort. Genèse 3, 19 dit d'ailleurs, « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. » Si nous savons que nous recevons le pain de la part de Dieu, nous devons aussi voir la grâce d'avoir un travail, un salaire régulier qui permet de subvenir à nos besoins et qu'au-delà des années légales du temps de travail, des systèmes de retraite sont mis en place pour ne pas être complètement démunis. Travailler, c'est une grâce. Étudier, c'est une grâce. Avec un cortège de privilèges, comme l'activité, la reconnaissance sociale, une rémunération, des relations, des potentiels de développement. Et je ne peux pas m'empêcher de penser ici à celles et ceux qui n'ont pas ce privilège, qui traversent peut-être depuis longtemps une période de chômage, cause de beaucoup de souffrances morales et parfois physiques ou psychiques. Je rencontre dans notre pays des ouvriers qui n'ont pas de poste de travail fixe ou pas de poste à plein temps, qui dépendent d'un travail difficile pour mettre quelques légumes et un morceau de viande dans la marmite. Et pour qui c'est au jour le jour l'angoisse ou la sérénité momentanée. Combien d'hommes et de femmes qui aimeraient gagner leur pain, ne pas dépendre du chômage, de l'aide sociale, de la générosité des autres. En parlant du pain quotidien, gagné à la force d'un travail, Jésus ne vise aucunement ceux qui peuvent être dans cette situation de chômage sans qu'ils l'aient cherché. Victimes d'une situation économique compliquée, difficile, victimes de restructuration, de dégraissage, de délocalisation, et combien d'autres expressions qui décrivent l'inadmissible dans une société où l'ouvrier compte moins que le profit des actionnaires. Il me semble alors que cette prière modèle du Christ sous-tend que Dieu attend que nous fassions notre part à nous en travaillant. Parce que le travail n'est pas une punition qui serait venue comme une conséquence de la rupture entre l'homme et Dieu dans le jardin d'Éden. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est un moyen d'épanouissement pour les hommes comme pour les femmes. Le travail, il existait avant la chute, hein, dans le paradis originel, où Adam et Ève, pour leur bien, devaient entretenir, cultiver le jardin, le faire prospérer, le garder, travailler en soi. Dès l'origine du monde, Dieu nous a donc donné des moyens physiques, intellectuels, matériels, pour cultiver, pour bâtir, pour entretenir, pour administrer, pour oser se lancer. Et il veut que nous nous en servions de ces moyens-là. Il me faut conclure. Dieu donne. Dieu donne. Nous avons affaire à un Dieu qui donne. Recevons avec reconnaissance ce que Dieu donne. Ce pain, notre pain, avec tout le reste de ses dons ultra généreux. Tout ça dans une vie honnêtement remplie. Bien équilibré, sobre, réfléchi. Voilà donc que sous des paroles ultra simples, Jésus propose d'autres priorités pour nos besoins matériels. Et comme Nicolas l'a lu tout à l'heure, il veut que nous soyons sans inquiétude, parce qu'il pourvoira à tous nos besoins comme il a toujours pourvu. Et enfin, et je finis avec ça, au-delà du pain matériel, dans sa grande variété de déclinaisons sucrées, salées, gluténisées ou pas, n'oublions pas que Dieu nous a donné Jésus. Jésus qui est le pain de vie. Jésus qui vient rassasier toutes nos faims, tous nos manques, toutes nos failles, tous nos besoins. Jésus qui étanche toutes nos soifs, Jésus qui seul peut nous désaltérer et nous nourrir durablement. Alors ce matin, que notre prière soit avant tout le reflet de notre reconnaissance d'avoir reçu toute bonne chose de la main de Dieu. Et surtout, ultimement, d'avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, bon et généreux. Amen. Quelques mots de témoignage de Nicolas, puis un instrumental. Et si vous le souhaitez, nous reprenons ensuite avec quelques questions. Slido.
Merci Philippe. Merci pour le message que Dieu t'a confié pour nous ce matin. Effectivement, avant de passer à la suite de notre culte, je vous propose ce témoignage qui m'est venu en préparant le culte avec Philippe. Comme vous l'avez peut-être su, Élise et moi avons été bénis par l'arrivée en novembre dernier de notre fils Noah. Vous le savez peut-être, je suis genevois, mais Élise et moi travaillons et vivons en France. Malgré le prix de la vie inhérent à notre belle région, il faut bien le dire, et à la proximité de la Suisse, à la magnifique ville d'Annecy, nous ne pouvons que constater avec reconnaissance que nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre avec nos salaires français. Ceci dit, quand un enfant arrive, tout d'un coup la question des finances se pose, et sur au moins deux aspects. Le premier aspect, nous voulons passer du temps avec notre enfant tant attendu. Élise souhaite avoir au moins 6 mois et moi 3 mois d'exclusivité avec Noah. C'est pas simple, même en France. Et pourtant, Dieu met tout en place. Premièrement, en préparant les cœurs de nos employeurs et ils ne feront aucun obstacle à nos demandes. Deuxièmement, en nous ayant permis de mettre de côté pour ne manquer de rien pendant cette période durant laquelle nos salaires ont été amputés d'environ 50%. Deuxième aspect, nous souhaitons faire garder Noah pour reprendre nos vies professionnelles. Deux questions, à partir de quand et à quel prix ? Concernant le quand, nous n'avons en réalité pas vraiment le choix. Ce sera à partir de septembre parce que les contrats de garde sont calqués sur le rythme de l'école. Cependant, Élise a besoin de retourner travailler à partir de juin, de un parce qu'elle aime son travail, et de deux parce que la situation financière actuelle ne pourra pas tenir éternellement. Là encore, Dieu nous répond en 3 points très précis. Élise et moi, nous voyons accorder un 80% chacun, et donc mercredi et jeudi, Noah sera avec l'un d'entre nous. Ensuite, ma maman est à la retraite depuis l'année dernière et elle est ravie de faire l'intérim entre la fin du congé d'Élise et les débuts de la garde. Et enfin, la maman d'Élise est assistante maternelle, Nounou, et elle est également ravie de garder Noah quand son agrément le lui permet. Le camp étant réglé, il reste financier. Au début, nous avons douté de notre capacité à faire garder Noah, quand la crèche qui est littéralement au rez-de-chaussée de notre copropriété nous a annoncé plus de 2000 euros pour garder 5 jours Noah par semaine. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est extrêmement cher, même pour un bon salaire français. Et il s'avère que même hors des crèches, certaines nounous calquent leurs tarifs sur les salaires des frontaliers. Dans notre cas, autant pour l'un que pour l'autre, autant s'arrêter de travailler. Mais encore une fois, Dieu a pourvu avec une nounou toute proche de chez nous, à l'écoute de nos besoins et avec des tarifs adaptés au salaire français. Durant ces derniers mois, vous vous en doutez, il y a eu des moments d'angoisse et même de panique. Mais force est de constater que grâce à Dieu, nous avons toujours eu notre pain quotidien et je n'ai aucun doute que nous l'aurons encore demain. Comme l'a dit Philippe, avant de passer au Slido, on va prendre un petit temps musical. Qu'il puisse prendre connaissance.
Il n'y a pas de question Slido, mais peut-être qu'une fois n'est pas coutume, on pourrait prendre, si le président est d'accord, une ou deux questions direct live.
Bien sûr.
Dans ces cas-là, on se dit soit c'était vraiment le gros fouillis, soit c'était tellement clair que voilà. Donc peut-être s'il y a une ou deux questions, une fois n'est pas coutume, on peut changer. S'il y a une ou deux questions. Sinon, je propose juste qu'on le dise, le Notre Père. Nicolas.
Dans toute cette prière qui est indiscutable, je ne vois pas tellement la place de l'intercession.
Alors moi, je la vois dans les demandes qui sont adressées à Dieu. Donne-nous, c'est une... Alors, est-ce qu'on met d'autres mots derrière intercession ? Moi, je vois derrière l'intercession la demande de type « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Délivre-nous. » J'y vois une forme d'intercession, mais peut-être tu mets autre chose derrière le mot intercession, Nicolas, avec le micro.
Je pense à toutes les listes qu'on reçoit de toutes les ONG où il faut prier pour des prisonniers, des malades, des villages incendiés. La liste est longue comme un jour sans pain aussi.
Ouais, alors encore une fois, moi je vois dans la prière modèle que le Seigneur nous laisse, un modèle de sobriété, ce qui n'interdit pas, de loin pas, d'autres demandes. Mais je trouverais dommage de passer à côté de ce qui est déjà essentiel, avant de partir sur ce qui me semble parfois secondaire. Je donne un exemple. J'espère, je vais vous choquer, hein, je suis désolé. Donc on n'est pas dans la prédication là, hein. On est dans un cœur à cœur, pas avec le Seigneur, mais juste avec moi. J'ai un cher ami qui régulièrement m'envoie un texto pour dire « J'ai prié pour une place de parc et je l'ai eue. » Alors je sais qu'on est à Genève et que c'est compliqué, mais enfin. Quand il m'écrit ça plusieurs fois dans la semaine, et c'est un cher ami, il ne fait pas partie de notre église, hein, donc je me sens très libre. Je me dis, purée, et puis moi j'ai prié pour ce couple en difficulté, puis ils s'enferment dans leurs difficultés. J'ai prié pour ce frère en fin de vie, puis c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je prie pour la situation en Ukraine, à Gaza, en Thaïlande, puis il n'y a rien qui change. T'es gentil avec ta place de parc. Moi j'ai besoin d'un Dieu qui vient me rejoindre dans la réalité des choses. Une place de parc, ça peut être la réalité des choses. Pour moi, c'est plus une question de priorisation. Je crois aux listes et aux chaînes de prières que nous recevons, mais encore une fois, en priorisant les choses, en tout cas pas en passant derrière le Notre Père, et que le Notre Père soit le parent pauvre de notre prière. Quelques éléments de réflexion à chaud comme ça. On peut poursuivre la réflexion. Tu voulais dire quelque chose, Nico ?
Non, c'est une piste que tu me donnes. Là.
C'est une piste, ok. Je vous invite à vous lever et on va la dire ensemble avant peut-être un interlude musical, puis la scène, ou avant le chant. Et je vais juste vous l'afficher pour ceux qui, comme moi quand je suis arrivé ici, ne la connaissaient pas par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus, merci.
Nous allons maintenant entrer dans le temps de la scène. J'aimerais relire le verset que Philippe, tu as évoqué tout à l'heure. Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En effet, Jésus a tout donné pour nous. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix pour nous laver de nos péchés. Il a tout payé, il suffit de l'accueillir dans nos cœurs. Il est essentiel à notre vie, il a vaincu la mort, il est ressuscité, et il veille à ce que nous manquions de rien. Ce repas que nous apprêtons à prendre, il est là pour que nous nous rappelions de tout ça. Et si aujourd'hui, peut-être pour la première fois, vous entendez Jésus-Christ frapper à la porte de votre cœur, laissez-le entrer et soyez les bienvenus au repas du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire l'institution de la scène dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Pendant la distribution de la scène qui est décrite juste là-haut, non, mais que ça arrive, je vous propose de prendre un temps de prière libre que je clôturerai. Et puis je vais demander du coup à Cyril, Jacques et John si vous pouvez pour distribuer. Merci.
sincère avec mes frères et sœurs. Tu as été jusqu'au bout. Tu as obéi au Père. Tu as donné ta vie pour moi, pour nous. Et je voudrais dire ce matin que tu m'encombres dans tous mes besoins. C'est celui qui m'habite, qui me chérit, qui m'accompagne, qui me console. Beaucoup de gratitude et de reconnaissance. En plus d'être dans un pays qui nous permet la liberté de penser, de parole, qui nous garde de la faim et de la guerre, et je veux te louer et bénir ton nom aujourd'hui, demain. Et jusqu'au bout de ma vie, Seigneur.
Amen.
Et même émerveillement, joie, habite mon cœur à cause de toi. Et je t'en rends grâce pour tout cela. Amen.
Amen.
Si nous avons ce privilège de te connaître, d'avoir beaucoup de choses qui viennent de ta part, que nous puissions aussi alors parler de toi autour de nous, être des témoins dans ce monde pour que beaucoup de personnes puissent se tourner vers toi. Amen.
Amen.
Merci mon Dieu pour ce pays dans lequel nous vivons, pour la richesse qui lui est accordée. Je te prie que cette richesse soit distribuée plus justement, que les pauvres ne soient pas oubliés, que nul ne manque du pain. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus. Je te prie que la bonne nouvelle puisse sortir de ces murs et que le plus grand nombre puisse l'entendre. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Avant de passer au repas canadien qui nous attend juste après ce culte, quelques annonces. Dimanche prochain, culte avec Philippe et visite de Manon Muller qui nous dira un mot sur son ministère. Réservez aussi votre 13 juin 19h30 pour un colloque et l'arrivée de l'été rime aussi avec les grillades qui reprendront à partir du 2 juillet. Ce sera le 2, le 16, le 30 juillet et le 13 août. Si vous le pouvez, je vous propose de vous lever pour la bénédiction. Et je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allons partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ hors de nos murs. Ne gardons pas ça pour nous. Très bonne semaine à tous.
Merci Nico. Bon dimanche.
Et bon dimanche.
Merci beaucoup, Nicolas.